Bonjour, vous écoutez Vraiment Vous, une série de podcasts présentés par Reitmans et dédiée à celles qui portent bien leur voix. Au micro, Chris Bergeron. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'asseoir avec une icône de la pop québécoise, Ariane Moffatt. Ça fait plus de 20 ans qu'Ariane fait avancer les causes de la diversité et de l'inclusion au Québec. Un combat qu'elle mène simplement, avec élégance et humilité. Bonjour Ariane.
Bonjour Chris.
Tu as réalisé un t-shirt pour Reitmans en collaboration. Est-ce que tu pourrais nous le décrire un petit peu?
Alors, c'est un t-shirt que j'ai réalisé. En fait, j'ai fait appel à l'illustratrice Mathilde Corbeil, une femme avec qui j'ai travaillé déjà dans le passé. Et c'est sûr que, bon, j'ai laissé libre cours à son imaginaire, mais on a discuté avant de se lancer. Puis la représentation finale de ce t-shirt-là, j'y vois l'aspect unificateur dans le rendu final, mais à travers le dessin, l'unité de chaque personnage représenté et une grande, je sais que c'est le trending word 2020, là, mais une grande sororité, une tendresse. Il y a des mains qui entourent chaque personnage comme s'ils s'enlaçaient. Puis pour moi, ce que ça représente, c'est l'idée d'un tout uni, mais à travers lequel il y a l'unité. Et l'aspect unique de chacun. On joue avec les codes du genre aussi, une petite moustache, mais qui est pas comme pour... C'est juste de dire, ces codes-là, du masculin et du féminin, est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec, de jouer avec, de manipuler ça en étant complètement libre pour cet exercice. Donc, je trouve que ça dégage beaucoup de solidarité, de tendresse et on reconnaît la possibilité d'être qui on veut à travers les différents personnages.
Donc, ton t-shirt, il est lié à une cause.
Mm-hmm. Ben, j'ai choisi une cause qui touche directement à mon quotidien en ce moment dans ma vie. C'est la cause, c'est l'organisme Jasmin Roy contre l'intimidation à l'école. Je pense que dans les prochaines années, ce sera un peu... En tout cas, garder les oreilles bien ouvertes parce que j'ai 3 fils, dont 2 sont en scolarité en ce moment. Puis, ben, comme mère, comme citoyenne, il n'y a rien qui me brise le cœur plus que de voir ce qui... La violence qui peut isoler, qui peut briser des estimes comme ça, c'est sauvage, hein?
Ouais.
La scolarité comme ça. Fait que je me suis dit que c'est à la racine, hein, qu'on veut prendre les enfants, les adultes de demain, les décideurs de demain. Puis c'est pas vrai là, que le travail est maximal pour avoir des résultats intéressants, de réfléchir aux méthodes de contrer, d'intervenir avec les enfants qui sont intimidés, avec les intimidateurs aussi. Tu sais, c'est pas dans tous les services de garde d'école qu'il y a vraiment les outils, mais je vois que ça, il y a un travail, il y a une volonté, mais on dirait que j'aimerais ça pouvoir voir que socialement, on en fait encore plus pour aider les jeunes à se développer sans avoir besoin d'un tuteur plus tard à cause de toutes ces violences-là.
Parce que c'est un travail de chaque instant, ça, aussi.
Oui, ben oui, c'est un travail de chaque instant. Puis la position de mes fils peut changer. Elle peut être celle de l'intimidé, de l'intimidateur. Comment préparer le plus possible nos jeunes à l'ouverture à la différence, à l'amour de l'autre pour ce qu'il est, tu sais. Arrêter de vouloir écraser. Mais en même temps... Si tu veux, c'est ingrat parce que la personnalité, l'identité se développe. Puis des fois, c'est par la violence qu'on essaie de penser qu'on existe. Et c'est ça. Je pense que c'est complexe dans le développement de l'enfant. Puis faut vraiment mettre beaucoup d'énergie socialement pour essayer de faire mieux que ce qu'on fait en ce moment.
C'est pas facile d'être maman de 3 garçons aussi par rapport à ce sujet-là, parce que ça veut dire que d'un côté, évidemment, il faut les protéger de l'intimidation, mais aussi s'assurer qu'ils ne se transforment pas en intimidateurs eux-mêmes, parce qu'il y a quelque chose, des fois, dans la culture des garçons qui peut être un petit peu agressif.
Complètement.
Comment est-ce que tu gères ça?
Ben, je pense que tout part avec l'ouverture, d'enseigner aux enfants l'ouverture à l'autre, la tolérance, l'acceptation de la différence. Mais je pense que mes enfants peuvent pas être plus dans une famille où on peut être qui on veut,
ouais,
en ayant 2 mamans, en comprenant vraiment vite que l'amour, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire d'état où on doit se sentir complètement libre. Ben, j'ai l'impression que ça développe quand même beaucoup l'empathie. On dit d'ailleurs que dans les familles homoparentales, la capacité d'empathie et de compréhension de l'autre et de ses différences vient quand même... est un plus dans cette situation familiale-là.
Ben, faut être à l'écoute quand on est un petit peu autre.
Entre guillemets, il faut aussi se serrer les coudes. Mm-hmm. Toi, l'intimidation, est-ce que c'est quelque chose qui existe encore dans ta vie? Parce que il y a quelque chose dans le discours ambiant qui se durcit un petit peu à travers les réseaux sociaux et mm-hmm. tout ça. Est-ce que tu as vu une résurgence de ce genre de choses-là?
Ben, je pense que oui, à travers les réseaux sociaux, il y a une droite qui est encore plus à droite, hein, mm-hmm. qui s'exprime haut et fort, sous le couvert de l'anonymat, mais puis en même temps, il y a plus de tolérance. Mais il ne faut pas penser que le discours d'acceptation à la diversité ne cache pas en même temps un discours beaucoup plus dur. Puis, dans ce sens-là, moi, je pourrais jamais parler trop d'ouverture, d'inclusion, de tolérance, parce que je sais qu'il y a encore une bonne frange de la société qui est pas tout à fait encore à l'aise, encore assez éduquée, encore assez vraiment ouverte dans son cœur pour réellement accueillir la différence de chacun. Fait que, oui, ça aide pas les réseaux sociaux. Moi, personnellement, à partir du moment où j'ai fait mon coming out en 2012, j'ai surtout ressenti une vague positive d'amour et de support. Mm-hmm. Mais à travers ça, j'ai encore des commentaires de, tu sais, bonne fête des pères, genre la fête des pères, ou des trucs comme ça. Mais ça fait partie, là, ça fait partie du décor, de toute façon, ces gens-là qui ont du mal à ressentir du bien dans leur cœur pour les autres.
Mais puis ce message-là de tolérance et d'acceptation, évidemment, ça passe par les entrevues, les conversations que tu peux avoir en public, mais aussi à travers ta musique. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est plus important de ton rôle d'ambassadrice, de porte-drapeau ou l'artiste? Parce que des fois, le porte-drapeau est peut-être prendre le contrôle de l'autre ou vice-versa. Comment est-ce que tu...
J'essaie de protéger mon aspect créateur de toute forme d'obligation ou de dogme ou d'engagement. J'essaie de faire en sorte que ma part créatrice soit toujours complètement libre. S'il y a des trucs qui sortent, qui sont plus engagés parce que je le ressens, right, c'est correct. Si j'ai pas envie d'aller là du tout, c'est un espace qui doit rester complètement libre. Ce qui a évolué depuis quelques années, je pense, c'est mon aspect citoyenne, une plus grande conscience du monde autour de moi. La maternité m'a amené à ça, puis ça m'a amené à plus d'engagement social. Et ça me fait sentir bien, ça, parce que je trouve que j'évolue dans un milieu qui est très, très axé sur soi, sur la performance personnelle, un peu la compétition des fois, l'image de soi, le regard sur soi. Et j'avoue qu'à un certain point, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un sens à travers le temps de continuer à cultiver juste l'ego, le soi, même si on chante pour les autres, on est en communion. Mais je trouve que ces engagements-là des dernières années, cette énergie que j'ai envie de mettre sur d'autres choses que ma musique, m'apporte énormément humainement, me garde un contact avec l'environnement qui m'entoure aussi, parce que c'est facile quand on est mère de famille avec beaucoup d'enfants, la gestion, de se refermer un peu sur soi et de sentir qu'on est coupé des enjeux importants sociaux. Puis mon métier, qui est un magnifique métier, me permet tout d'un coup de tendre la main, de faire mon petit bout pour aller utiliser cette plateforme-là, cette voie-là, pour tenter de m'impliquer, d'amener une petite mon épaule à la roue à ma façon.
C'est ça qui a changé peut-être pour toi dans les 10-15 dernières années, c'est que avant il y avait juste l'artiste finalement, mm-hmm. et maintenant il y a plus de choses.
Ouais, vraiment. Puis c'est ça, ça rend, je trouve, l'aventure, le voyage plus intéressant au niveau du sens, au niveau de à la fin de la journée, comment mon cœur est rempli aussi, parce qu'on sait que de s'intéresser aux autres ou de donner de son temps ou peu importe qui, métier public ou pas, c'est sûr qu'on peut juste en sortir avec une sensation d'avoir plus d'utilité, puis de vibrer avec les autres.
Oui, c'est ça, ça donne plus d'antenne.
Ouais.
C'est comme si tu trouvais, j'ai l'impression, des nouvelles sources de poésie aussi à travers mm-hmm. ton quotidien. Tu es peut-être plus à l'écoute du quotidien dans tes derniers albums mm-hmm. que tu l'étais au début. Il y a quelque chose de très sur les détails, je trouve, aujourd'hui, non?
Ben peut-être, mais dans le fond, ce que tu nommes, c'est aussi l'évolution d'une femme, point, entre le début, la vingtaine, la quête de soi, ou notre mal-être, ou nos difficultés d'être. Pour ma part, j'étais beaucoup moins bien dans ma peau à l'époque. Ça prenait beaucoup d'espace. Puis, en quelque part, j'en avais moins d'espace pour me consacrer au monde plus autour, tu sais. Fait que j'ai de l'empathie aussi pour la femme qui a évolué, la citoyenne qui a évolué à travers des grands événements comme la maternité aussi. Ça déclenche des changements importants.
Bien sûr.
Puis tout ça, ça a mené vers... Puis tu sais, si on fait tout le temps la même chose, si je pratiquais mon métier de la même façon il y a 20 ans qu'aujourd'hui, ce serait assez plate, ce serait assez répétitif. Mais c'est intéressant que tu soulèves que cet engagement-là ou ce contact avec le monde extérieur plus grand peut avoir une répercussion aussi sur la création.
Oui, parce que t'amènes des sujets, peut-être qu'avant, enfin là je veux pas caricaturer, hein, mais tes premières chansons étaient quand même sur les relations, sur voilà.
Ouais, et puis maintenant,
voilà, exactement, un peu replié sur sur toi-même, ce qui est normal, c'est comme ça que tous les artistes naissent.
Ouais.
Mais là, tu t'intéresses dans ton dernier album, je sais pas, au fait que les gens sont trop accrochés à leur écran, par exemple,
la statue qui était très reliée à une sortie des courageuses, des femmes Gilbert Rozon. Je me rappelle du moment où j'ai écrit dans mon studio suite à leur prise de parole. Fait que oui, finalement, il y a une interactivité qui a grandi dans comment un apporte à l'autre. Puis, c'est ça. Tout ce qui compte pour moi, c'est que je suis pas sûre que l'artiste a la responsabilité de l'engagement. Je trouve que, justement, il faut que ça prenne la plus grande liberté possible. Puis si, dans certaines périodes de vie, j'ai envie d'inclure plus ça à ma création, tant mieux, mais faut pas que ça devienne un devoir pour moi ou une pression. Je pense qu'il faut surtout laisser la créativité s'exprimer au moment où on est dans notre vie comme elle doit arriver.
Mais ça, tu peux vraiment le contrôler parce que j'ai l'impression que tu es dans une position où les gens viennent te chercher et te demandent de t'exprimer sur certains sujets.
Oui, comme à plusieurs artistes. Puis j'imagine que si je martèle autant le point que je veux protéger la liberté de ma création, c'est parce que je veux toujours me rappeler à moi-même aussi de pas flancher sous le poids de cette demande-là puis de tomber dans une surenchère. Il faut que chaque choix que je fasse... comme par exemple cet engagement avec Rickmans, là, faut que ça résonne, faut que ça touche à des enjeux fondamentaux en moi. Faut pas que ça devienne un mode de vie d'artiste qui veut juste épouser toutes les causes pour se sentir mieux quand il se couche le soir, tu sais. Mm-hmm. Faut que ce soit vraiment en lien avec... Donc, j'en refuse beaucoup aussi. Tu sais, c'est ça, c'est pas une épopée là où je pars et de devenir social warrior non plus. Je sais qu'il y a certaines causes où je suis pas la bonne personne aussi pour parler. Dans le cas de cette campagne-ci, je veux dire, on touche à la famille homoparentale, on touche à la diversité. Puis pour moi, la diversité, c'est drôle qu'aujourd'hui, on targue ça socialement. C'est vraiment, c'est présent, puis on a un discours de plus en plus... actif socialement autour de la diversité, mais ça me rappelle toujours la jeune Ariane qui était en train de se demander « Je vais-tu faire mon coming out? » Puis comment je vais vivre ça? Puis qui se sentait isolée là-dedans. Fait qu'on dirait que tantôt, j'étais sur le shooting, je me disais « Waouh, aujourd'hui, on m'appelle pour défendre le fait d'être soi, peu importe ce que c'est. » Alors que dans mon chemin de vie, ça a été quand même une bataille personnelle. Fait que je trouve ça beau, ça.
Ça, c'est quelque chose d'intéressant dans une vie, quand on vit dans le secret, après ça, on sort.
On se dévoile.
Il y a quelque chose de presque traumatisant dans la bienveillance des autres.
Mm-hmm.
Hein, on se dit, on s'est protégé, on s'est battu tellement longtemps, puis là, les gens sont gentils avec nous, on ne sait pas comment réagir.
Ouais.
Est-ce que tu as vécu ça?
Les gens ont été... Ça m'a surpris à quel point les gens, en 2012, par exemple, ont été bienveillants à mon égard. Mais moi, c'est l'aspect plus... cette espèce de avant son temps, tu sais, de dire qu'on a un peu défriché, que ce soit la diversité corporelle pour un poids qui n'est pas le poids de la chanteuse pop idéalisée, que ce soit pour l'homosexualité ou l'homoparentalité. Finalement, je réalise que j'étais en avant avec ma frontale, puis je défrichais le terrain.
Ouais.
Puis aujourd'hui, c'est au grand jour, puis pas seulement pour moi. Il y a certaines entreprises qui ressentent une mission à travers ça, de vouloir mettre, tu sais, entrer dans le jeu puis défendre ces valeurs-là. Fait que ce qui me rend ça quand même un peu surréel, c'est de sentir que, ben, j'avais comme un peu, à ma façon très personnelle, déchiffré ce petit terrain-là, défriché, pardon, puis qu'aujourd'hui, on est plusieurs à marcher dans ce sentier-là. Ça me rappelle de toujours rendre hommage à ceux qui étaient là avant nous aussi, par rapport à la bataille de la diversité, des différences, de l'identité sexuelle.
Ouais.
Imagine combien de gens ont eu le vent d'en face, plus que nous, avant nous.
Oui. Mais est-ce qu'il y a dans les générations d'avant des gens que tu considères comme des mentors, justement, qui t'ont aidé par rapport à tout ça?
Ben, je sais qu'au Québec, j'éprouve énormément de tendresse pour Clémence Desrochers, pour ce qu'elle représente comme artiste, comme poétesse, parce que oui, c'est une femme drôle, mais c'est une femme avec une sensibilité puis un talent, une plume exceptionnelle. Je sais pas, même si elle a jamais été dans un coming out, je sais qu'elle a toujours été avec sa femme, qu'elle a vécu sa vie à partir du moment où elle a fait des choix, puis je pense que c'est la première femme publique au Québec à avoir été lesbienne dans son milieu. Je pense que c'était un secret de Polichinelle, mais je veux dire, pour moi, c'était ma première référence de femme publique québécoise. Puis maintenant, quand je la vois, on s'aime beaucoup. Il y a ce lien-là qui nous unit. C'est une femme que j'admire énormément.
Elle a fait, c'était avec classe parce que c'est une sorte de revendication de la normalité, ce qui est quelque chose que tu as aussi.
C'est
parce
vrai.
Que tu parles de ton quotidien comme tout le monde parle de son quotidien. Il y a aucune différence.
Puis c'est un bon point ça, Chris, parce que la normativité ou la normalité dans l'homosexualité, c'est vrai que c'est quelque chose, surtout par rapport à la famille.
Ouais.
J'ai envie que les gens témoigne du fait que les enjeux sont les mêmes, qu'il y a rien de si exceptionnel que ça, puis de si différent que ça, que des enfants ont surtout besoin d'un triangle, donc de deux parents qui voient, qui s'aiment au-dessus d'eux, et les enjeux du quotidien, l'école, la vie quotidienne, la vie de quartier, c'est tout à fait comparable à ce que mes amis hétéros vivent, puis je sais pas. J'ai un sentiment d'appartenance. On a beaucoup de familles homoparentales autour de nous, puis c'est important, avec lesquelles on se tient, mais je suis pas non plus dans mes fréquentations très ghetto, très... mes amis, c'est pas juste des lesbiennes, puis des... Tu sais, je suis capable à même de voir à quel point, pour tout le monde, c'est comme les mêmes enjeux, les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes succès. Puis c'est ça que j'ai envie de dire à tout le monde. Pour ceux qui seraient pas encore convaincus.
Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, l'idéal serait qu'on n'ait même pas à avoir ce genre de conversation-là?
C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Puis j'ai l'impression quand même, là, je ressens un peu d'espoir en ce moment, je trouve, par rapport
à... C'est ça que j'allais te poser comme question. Es-tu optimiste? Parce qu'il y a toutes sortes de raisons de palette. Quand on lit les nouvelles, quand on voit, je ne sais plus, je lisais récemment que, par exemple, aux États-Unis, les crimes homophobes ont augmenté de près de 100%, à Londres, de 500%.
Je veux dire, c'est... Dans certains pays.
Dans certains pays.
C'est carrément, tu meurs, là.
Mais voilà.
L'inégalité dans les pays, là.
Et c'est dur de se dire que, finalement, ça va mieux et que ça va aller mieux. Comment est-ce que tu restes optimiste?
Sur une perspective internationale, c'est vrai que c'est difficile de dire ça va aller mieux pour tout le monde. Je pense qu'ici, au Québec, je fais juste penser à la France. Je veux dire, c'est un des éléments qui m'a donné plus le goût de tourner. Fermeture d'esprit par rapport à même l'illégalité de la procréation, la PMA, les manifestations. J'étais en France des fois en tournée, je voyais, voyons, c'est bien rétrograde. Mais ici, au Québec, au Canada, moi, je trouve qu'il y a un travail qui se fait et les choses changent pour le mieux. Puis, je sais pas, à voir comment moi, dans mes 20 ans, ma carrière depuis 20 ans, puis ma vie personnelle... Comment les choses ont évolué au quotidien, comment aujourd'hui je me retrouve ici, appelée pour incarner exactement ma différence, qu'elle soit un modèle, qu'on a envie de la mettre en lumière, ben pour moi, c'est juste l'amélioration. Puis par rapport à la famille homoparentale, je veux dire, j'arrête pas de voir vraiment de plus en plus de beaux exemples. Ça reste, ça va toujours rester une minorité, tout ça.
Bien sûr.
Mais ce vivre ensemble-là, je trouve que. Bon, je suis dans un milieu extrêmement favorisé du Mainland où la diversité fait partie des meubles puis où on n'est pas marginalisé tant que ça.
Ouais.
Mais j'ai espoir, oui, j'ai espoir que la différence fasse de moins en moins peur parce que socialement, dans les médias, dans les entreprises, il y en a un effort qui est palpable, qui fait que les gens sont informés de plus en plus puis que... On met plus ça en dessous des fleurs du tapis, puis il y a un discours, il y a une envie de changer. Puis je pense que cette éducation-là pour la société va faire en sorte que l'homophobie puis la peur de l'autre va s'estomper.
Est-ce que ça veut dire que le rôle de l'artiste, en général, pas juste sur ce sujet-là, mais comme on vit dans un monde qui fait beaucoup de bruit en ce moment, et peut-être d'apaiser les choses, d'être une force apaisante, parce que j'ai l'impression il y a quelque chose dans ta musique qui qui calme, même quand le, même quand c'est des trucs qui sont un petit peu plus, comme la chanson que t'as fait avec Rick, qui est un petit peu, un petit peu plus banger. Dans, mais il y a quand même, il y a quand même une sorte de sérénité dans ce que tu, ce que tu amènes. Est-ce que c'est, ça serait ton autre mission, de rendre les gens plus sereins?
Oh, ben, c'est une belle chose, ça. Je sais pas. Pour moi, peut-être, en général, la chanson, la manière dont je la porte, ce désir de dire c'est correct comment tu te sens, c'est correct d'être quitté, que ce soit par rapport aux différences ou juste aux humains en général. Fait que peut-être dans ma voix, cette envie de rassurer, d'apaiser. Mais je sais pas, j'ai pas rationalisé ça vraiment pour dire je m'en fais une mission. Mais je pense qu'en général, dans mon approche de la création, l'idée de faire sentir à l'auditeur « je ne suis pas seule », ce sentiment-là peut résonner à travers une chanson, venir me parler, venir me calmer. C'est pas mal en soi, une belle mission, puis tant mieux si tu ressens que c'est ça que la musique fait.
Ça veut dire que peut-être tu retrouves un plaisir à aller dans des salles plus petites aussi, d'avoir un contact un petit peu plus tangible avec, avec les.
Oui, en ce moment, c'est tout à fait juste. Là, je suis en train de commencer un show solo, piano. Et c'est juste ça que ça amène, là, parce qu'entre les chansons, je suis tellement. Les chansons sont tellement dénudées. Je reviens tellement aussi à ce qui se rapproche de l'exercice de composition. Quand je compose, souvent, je suis au piano. Alors, le fait d'offrir un concert comme ça, ça fait quand les chansons, j'explique d'où elles viennent, je me révèle beaucoup. L'écoute est très, très active. Fait que ça amène un peu à la confidence. Puis, je pars là-dessus pour les prochains mois. Là, je vais offrir ce genre de concert-là. Puis, ouais, sûrement là-dedans, derrière ça, une envie de... laisser tomber toute forme de couche au-dessus, puis d'être...
d'aller à l'essentiel.
À l'essentiel. L'essentiel des chansons, puis l'essentiel des émotions qui sont associées à ces chansons-là.
Dans 10 ans, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu vas être avec ton piano, dans
nue,
le calme?
C'est ça.
Sans
plus
lumière,
de décor,
plus de décor.
En lévitation.
Oui. Ou est-ce que c'est une phase? C'est des choses qu'on dit dans d'autres contextes pour nous. Mais est-ce que tu t'imagines avoir envie de retourner dans le bruit?
Sûrement. Hein. Moi, ça fluctue un peu comme le contenu de ma musique. Des fois, c'est maniaco-dépressif. Là. On va de super intimiste à des trucs avec un groove qui veut rassembler tout le monde. Mais c'est dur à dire en ce moment. J'ai tellement de projets sur le feu qui me nourrissent et qui répondent à différents états parce que j'ai un projet parallèle qui s'appelle Somme, qui est plus dans une pop électro vraiment actuelle avec des collaborateurs beaucoup. Fait que là, ça brasse mon côté production en studio, rencontre avec les, tu sais, des artistes rap de la nouvelle génération. Il y a toute cette partie-là de moi qui nourrit, puis en même temps, piano-voix super tranquille. Fait que là, on dirait que j'ai même pas la place pour imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver après. Mais toujours, en tout cas, d'écouter ma petite voix. Hein. Je pense que cette petite voix-là, on peut en parler dans un contexte d'une campagne comme ça. C'est d'écouter ce qui va monter, puis de sentir où est-ce que j'ai envie de me voir. Puis je vais essayer de suivre ça.
Fait que là, t'as été défricheuse, tu l'es encore, mais là, t'es un peu marraine aussi, finalement, parce que tu collabores avec... En fait, ça amène une crédibilité aux jeunes de venir collaborer avec toi. Comment tu le vis, ce rôle-là, tout d'un coup, d'être...
Ben, je suis contente de voir, en tout cas, que des fois, je rigole, je dis, c'est mon projet Cougar, la madame qui invite les petits jeunes à son studio.
Mais, ouais, ou ta phase Madonna.
Exactement. Madame M.
Oui.
Mais c'est ça, je veux que ça reste, comment dire, vrai, organique, rien de forcé là-dedans. Puis ceux qui ont envie de venir collaborer, ils viennent. Les autres à qui ça parle pas, ils viennent pas, puis c'est bien correct. Mais ce que je sens, c'est vraiment le fun, parce que t'invites des rappers, la toune part, on fait le beat. Pendant ce temps-là, il y en a 2-3 qui écrivent dans leur coin. Tu sais, ça me met en contact avec leur façon de monter une track, de travailler ensemble, de goûter à ça. C'est une façon de rester proche de l'énergie de cette génération-là qui est en dessous de moi. Mm-hmm. Fait que je me vois pas tant comme une marraine que comme une artiste créatrice qui a envie de pogner un peu de cette vibe-là, puis de me frotter à ça. Mm-hmm. Puis aussi de maximiser l'idée de dire, OK, on met nombre de personnes dans une pièce, qu'est-ce qui arrive? On est-tu capable de créer? Puis c'est à l'extérieur de Ariane Moffat.
Oui.
Alors, c'est sous un autre projet parallèle, puis ça devient une espèce de petit labo de façon différente de brasser la sauce puis de monter des tunes avec quelque chose d'hyper spontané.
Ça, c'est un truc que t'as jamais perdu, le côté patenteuse. T'es, t'es très hands-on, toi.
Ouais,
pas les autres qui font ton travail.
Non, le gars avec qui je travaille, qui est le producer drums, je veux dire, nos deux ordis sont ouverts en même temps, on s'envoie des tracks. C'est pas juste de la façade. Là. Dans mon studio, qui s'appelle le studio La Classe, c'est une salle de classe dans une école qui est pas en activité en ce moment, là, avec les vieux tableaux et tout ça. Je trouve ça beau comme symbolique, que c'est comme une classe. Mais j'ai mis des panneaux, j'ai tout mon ordi, mon setup. Puis oui, je touche bien les boutons. Là. J'aime bien ça.
C'est comme de la recherche et du développement.
Ben oui, vraiment, vraiment. Ben oui, puis ça, dans n'importe quel métier, dans le tien, il faut toujours en faire. Me semble c'est important.
J'ai un peu l'impression que la synthèse de tout ce qu'on vient de se dire, c'est un peu la curiosité. C'est la curiosité qui fait qu'on est ouvert à l'autre. C'est la curiosité que tu restes un petit peu, que tu restes ouverte et current, pour utiliser un mot anglais. Est-ce que c'est quelque chose qui est le cœur de ton...
Je pense que la façon de me décrire, ce serait peut-être ça. C'est ça qui me pousse comme artiste aussi, la curiosité de l'autre, de ce qui se fait, de l'expérimentation, de la rencontre, puis de l'autre comme humain. Parce qu'à la base de tout ça, là, oui, la musique est on top, mais à la base, si je fais de la musique, c'est parce que l'humain me rend curieux. Mm-hmm. L'humain, ce qu'il y a comme bagage, qu'il a envie de me partager, que ce soit... le respect que j'ai pour le public qui vient m'entendre, les gens que je rencontre dans la rue qui me connaissent, c'est... j'ai une passion pour l'être humain, puis pour ses, justement son côté unique. Puis je pense que tout le monde a le droit d'exister, comme pas pour être cliché, mais d'exister dans toutes ces zones sombres, ces zones lumineuses, ces zones différentes, ces enjeux pas réglés, ces défauts, ces qualités. Puis c'est ça que la musique permet de célébrer pour moi. Puis c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, continuer à connaître mieux des autres, puis à connaître mieux grâce à la musique.
C'est un domaine de recherche qui est sans fin.
Vraiment. Jusqu'à la fin de la vie.
Jusqu'à la fin, ben je te le souhaite. Et que ça soit dans longtemps.
Exactement, oui. Ça conclut encore mieux. Moi aussi.
Voilà, merci.
C'est un grand plaisir, merci.